m'appelle Carl, je suis un expert.
Vous êtes venu réparer le câble ?
Mon Dieu, je vous laisse imaginer la suite.
Il répare le câble.
Vous êtes un sacré sans gêne.
Merci.
Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Triphasé, le podcast sous tension mais sans pression. Un sujet, deux conversations, quatre personnes et quatre manières d'aborder ce thème. C'est ce que nous proposons dans ce format. Je ne sais pas si vous m'entendez depuis les tréfonds des réseaux de télécom, mais c'est bien moi, Tinou, depuis mon appartement. Pour une émission enregistrée depuis des lieux fort éloignés les uns des autres, et ce grâce à un magnifique artifice de la technique. En effet, pendant cette période de confinement, l'équipe de Triphasé et moi avons un allié de poids pour pouvoir malgré tout vous livrer votre épisode de mai. Consommer de la culture, partager des photos de chats en rafale avec ses collègues, et surtout rester en lien. Et oui, le sujet du jour, c'est l'Internet qui nous occupe aujourd'hui, et je vais ouvrir le bal aujourd'hui. J'ai dit trois fois en très peu de temps, c'est l'enfer. Je vais ouvrir le bal donc en vous éclairant sur des règles et lois qui régissent la jungle des réseaux. Et ensuite, ce sera Guy qui nous fera partager le son de sa douce voix depuis son lieu de confinement. J'espère que tu vas bien, mon cher ami Guy.
Bah écoute, Tinou, ça va très bien, merci à toi. Je suis à Caen et ma chronique s'appellera Never Trust a Girl Without Records Collection ou comment j'ai pris un abonnement à Spotify Premium.
Tout un programme, super, merci Guy. On conclura l'émission avec notre ami Crossfell. J'espère également que tout va bien pour toi depuis ton chez-toi, mon cher.
Ah, la vie rêvée, je bosse en slip à Rouen, tout va bien. Moi, ma rubrique sera sur les jeux de société et internet.
Super, merci. Et notre invité donc, qui prendra la parole après moi et qui a suggéré ce thème qui nous touche forcément de très près, c'est Victor. Comment vas-tu, cher ami? Bienvenue dans Triphasé. Et de quoi est-ce que tu vas nous parler? Ça fait beaucoup de questions, je crois.
Ok, et eh ben du coup, tout va bien, merci beaucoup. Et du coup... Moi, je vais parler de Yahoo, de l'Arctique et de ma jeunesse, tout ça en lien avec Internet.
Super, merci beaucoup. Évidemment, toutes ces chroniques, comme d'habitude, seront ponctuées par une pause musicale et des capsules, ainsi qu'un pseudo-décap. J'en profite pour préciser, bien évidemment, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qui doit être par conséquent consommé avec modération. Installez-vous, branchez-vous, c'est le cas de le dire, vous êtes bien dans Triphasé. Nickel. Et donc pseudo décap comme j'ai dit. Avant ça, on va demander à notre ami Victor. Mets-toi à l'aise. Depuis ton chez-toi, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Notre cher ami Victor, pourquoi ce choix de thème? Est-ce que tu veux qu'on en discute rapidement?
Bah ouais, carrément. Bah en fait, il est assez parlant ce thème parce que c'est exactement l'outil qu'on est en train d'utiliser pour faire cette émission. Et du coup, je pense que c'était le moment propice pour en parler. Et,
c'est le fond et la forme, exactement. Oui.
Exactement. Et il régit un peu nos vies, en fait. C'est-à-dire qu'on passe minimum peut-être 2 heures sur Internet par jour. Et donc, je pense que c'est intéressant de parler des choses qui nous occupent au moins 2 heures par jour.
Très bien. Super. Bah écoutez...
ça aurait pu être faire caca.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça c'est dans l'éventualité où tu passes 2 heures de ta journée sur le trône, mais personnellement ce n'est pas mon cas.
Si tu regardes Internet en faisant caca, ça peut durer 2 heures.
C'est ouais. Vrai, oui. Il y a cet adage qui veut que si tu as une prise de courant et le wifi dans tes toilettes, en théorie tu peux y passer un temps infini. Mais... Ok, très bien. Eh ben, merci Victor pour ce thème. J'espère que on va honorer ta, je vais pas dire ta demande, mais en tout cas le thème que tu nous as suggéré avec le brio que tu attends. Alors les gars, est-ce que vous avez quelque chose à boire? Puisqu'on va pas pouvoir faire un décap classique confinement oblige, je voulais savoir si vous aviez une petite bière sous le coude éventuellement, un truc particulier à présenter.
Bah écoute, moi c'est Chauvin, j'ai une bière bretonne, c'est une Brite, une blonde au malt et au sarrasin. C'est pas mal, franchement. Pour le coup, t'as un peu l'impression de boire des crêpes, mais une petite 33, 5,5 d'alcool. Non, franchement, c'est pas mal. Il y a
un petit peu d'orge. Ouais, t'as littéralement à manger et à boire.
Ah, mais clairement, c'est ça. C'est malt, sarrasin, de l'orge. Et puis voilà, brassé par la brasserie de Bretagne. Donc, clairement.
Ok. Très bien. Et toi, Victor, tu as quelque chose à boire éventuellement sous le coude, là ?
Bah écoutez, moi, c'est plutôt basique. C'est troisième rayon du supermarché, une petite Affligan.
Ok.
Brassé en Belgique, 25 degrés. Non, 6,7 degrés, excusez-moi.
Le mec va se la coller.
Ouais, je crois qu'on a déjà perdu, Victor. Le confinement va faire beaucoup de mal. Ok, très bien. Et toi, Guy, t'as quelque chose à boire ou pas ?
Ouais, bah vous allez un peu rire parce que moi j'ai ma gourde, ma hydroflasque pleine d'eau avec moi parce que ce week-end on s'est collé une race avec une brasserie qui est à côté de chez nous, la brasserie des Neuf Mondes que je recommande fortement. C'est un copain, Thomas. On a goûté toutes ces bières et plusieurs fois. Donc,
ouais.
J'ai pas décidé de boire ce soir-là pour me préserver un petit peu, mais d'accord. Je vous la conseille, ils font notamment une triple noire à 9,5 degrés d'alcool, il n'y a pas une bulle dedans et c'est un délice.
D'accord, et avec ça tu fais démarrer une mob ou pas?
Ouais, je pense qu'on décolle un carter complet quoi.
Ah d'accord, ok, et ben pour ma part ce sera une Brooklyn East IPA. Oh. Ouais, bah oui, écoute, je me suis acheté ça là pour les quelques sessions de concert là que j'ai fait depuis chez moi là ces dernières semaines. Et il m'en reste une que j'ai précieusement gardée pour l'enregistrement de ce soir. Ouais, je suis quelqu'un de prévoyant par moment. Eh ouais, je suis dans le turfu, qu'est-ce que tu veux ? Très bien. Ok, bah santé de loin, messieurs, je trinque avec mon bureau. Hop, voilà, ça ne s'est certainement pas entendu. Ah, je peux trinquer avec mon verre aussi. Voilà, nickel. Devant le micro, c'est incroyable, on fait vraiment les effets spéciaux, c'est le turfu. C'est à moi de parler, dites donc, jingle. Et messieurs, donc, comme je disais tout à l'heure, on va parler des lois d'Internet. Je vous propose une petite chronique faite par-dessous la jambe. Non, c'est par-dessous la jambe qu'on disait ça, hein, par-dessous la jambe. Pour
entre
parler
entre
ouais ça c'est une autre position, je veux toutes les positions. Donc les lois d'Internet, et la première loi d'Internet, c'est qu'on écrit Internet en français sans majuscule. Voilà, qu'on se le dise, j'ai pas arrêté en réparant ma chronique de me planter de systématiquement vouloir l'écrire avec une majuscule, mais voilà, j'ai appris que Internet ne s'écrivait pas avec une majuscule en français. Ok.
Même quand il débute une phrase.
Comment, pardon ?
Même quand il débute une phrase ?
Bah si. Oui, si, bien sûr. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point, mon cher Victor. Donc, les lois d'Internet. Bah écoutez, présenter ainsi, le sujet peut avoir, par son intitulé, selon moi, deux acceptions. Internet du point de vue du droit. Car contrairement à ce qu'on semble croire par moments sur les réseaux sociaux, c'est loin d'être une zone de non-droit. Et je ne vais évidemment pas vraiment m'intéresser et m'arrêter sur les lois du monde réel, de la réalité véritable, parce que ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse. Vous voulez du fun, j'imagine. On va plutôt parler des lois d'usage concernant l'utilisation d'Internet. Quelque chose de plus induit, de moins inscrit dans le marbre. Et j'ai remarqué, en préparant cette chronique, que ces lois, par la nature grégaire collective d'Internet, traitent souvent de la notion de débat et évoquent assez fréquemment les forums, ce qui peut nous rapprocher du point de vue du comportement des usagers d'Internet, des sciences sociales. Alors moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'il semblait, du coup, en essayant de recenser, on va dire, ces lois, il semblait émerger non pas comme une vérité, mais en tout cas la recherche un peu d'un ordre, d'une manière de faire ou d'une force supérieure à laquelle se référer dans l'utilisation de ce réseau. Parce qu'on parle bien dans la vraie vie, quand on parle de la loi, de respecter la loi, par exemple, ou si on prend la loi dans un autre sens du mot, je veux dire, des lois de la physique. qui est intéressant pour le coup, c'est qu'il semble du coup émerger non pas comme une vérité, mais en tout cas une recherche d'un ordre ou quasiment une force supérieure à laquelle il faudrait se référer dans l'utilisation du réseau Internet, puisqu'on parle bien dans la vraie vie du respect de la loi, ou si on prend la loi dans son autre sens, les lois de la physique, en dehors du contexte d'Internet. Donc, comme je disais, par ailleurs, ces lois d'Internet peuvent souvent être transcrites comme des lois mathématiques ou physiques avec le chaînon d'implication, si, alors. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif de parler, pas vraiment dans le vide, mais voilà, c'est quand même assez...
Non, c'est intéressant.
Nickel. Internet, donc, se comporterait selon le cas comme une masse sociale qui nécessite des règles pour vivre ensemble. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, pas mal de ces lois conditionnent les rapports entre internautes. On parlait de la notion de débat tout à l'heure. Soit comme un phénomène observable et peut-être même, je ne sais pas dans quelle mesure, je n'ai pas vraiment prospecté dans ce sens-là, un phénomène observable et peut-être même mesurable. Donc, pour ce qui est de ces lois d'usage, Internet est lui-même plutôt fourni pour les recenser, mais je vais ici vous en faire une synthèse ainsi que de vous apporter quelques exemples pour vous éclairer sur le sens de ces lois, qui vont en premier lieu avoir un sens, donc comme je disais, qu'on va d'abord rapprocher de celui des sciences dures, formelles, comme la physique et les maths. Puis on va commencer donc par une des lois les plus célèbres que vous connaissez certainement, messieurs, la loi de Godwin.
La 43.
Alors, on en parlera un petit peu plus tard, et c'est la loi 34 dont tu veux parler.
Non.
Donc la loi de Godwin, comment ?
Non, la 43.
Alors, il y a aussi une loi 43, mais la plus connue des lois dont tu parles, c'est la loi 34.
Bref. Mais oui, je t'embête, mais ça fait longtemps qu'on ne t'a pas interrompu dans une chronique. Ça te manquait sûrement. J'essaye de te faire perdre le pas de ta chronique, même à distance, et c'est assez difficile.
Je comprends rien. Merci d'essayer de me faire vivre un enregistrement comme d'hab. Ça me fait toujours hyper plaisir. La loi de Godwin, donc, qui tire son nom de Mac Godwin, un avocat qui a été notamment embauché par la fondation Wikimedia. Que dit cette loi ? Elle énonce donc un théorème qui dit que plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Lorsque cet événement advient, on dit qu'est atteint le fameux point Godwin. Le point, donc, au sens temporel et non pas au sens du bon point qu'on distribue, même si cette image du bon point a pu donner des mèmes assez drôles. J'ai par ailleurs appris que, de même qu'il existe le raisonnement par l'absurde, le raisonnement en latin ad absurdum, il existe le raisonnement ad Hitlerum, où l'on discrédite l'adversaire du débat en émettant des liens entre ses arguments et Adolf Hitler. Ensuite, j'ai oublié la référence que j'ai notée plus loin, mais voilà, j'ai réussi à trouver donc une liste de certaines lois, on va dire, fondamentales de l'utilisation d'Internet. Et je vous donnerai la référence un petit peu plus tard pour rendre à César ce qui lui appartient, bien sûr.
À Hitler.
Comme je disais, la loi de Pau, Pau, P-O-E, hein, rien à voir avec le Teletubbies, hein, bien sûr. La loi de Pau, donc, qui tire son nom de Nathan Pau, né dans un forum, dans le forum création et évolution du site Christian Forum. Amis créationnistes, si vous nous entendez, bonsoir. Big up, tout à fait. Donc, elle énonce cette loi que sur Internet, il est difficile, voire impossible, de distinguer un propos extrême ou outrancier d'une exagération volontaire. Le second degré, tout ça. C'est évidemment logique de parfois douter des intentions réelles de quelqu'un quand on ne connaît pas ou quand on lit ou voit quelque chose qui nous semble borderline, sans émoticône, sans la ponctuation adéquate ou sans un gros panneau. Eh oh, c'est du second degré. Je suis personnellement assez agacé par ce genre de type qui croit que ça tombe sous le sens, le second degré, des gens qui tiennent des propos outranciers et qui précisent derrière second degré, alors qu'en réalité, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une plaisanterie.
Ou alors c'est juste une excuse en fait, en disant si ça passe pas, je pourrais toujours dire que c'est une blague, quoi.
Absolument, oui. On est bien d'accord. C'est d'autant plus énervant d'être confronté à quelqu'un qui émet un avis qui ne l'assume pas parce qu'il rencontre une farouche opposition.
Alors que moi, c'est complètement l'inverse, en fait. C'est des blagues tout le temps. Et si des fois, ça peut paraître sérieux, je dis que c'était sérieux.
Partager le quotidien de Creuse doit être assez compliqué, quand même.
Big up, Nathalie.
Oui, c'est ça, Big. On t'embrasse, Nathalie. Tu nous entendras plus tard. La loi de Dante, D-A-N-T-H, qui est le pseudo d'un mec qui a été banni d'un forum sur un site internet qui s'appelle rpg.net.
Non, je crois que c'était l'enfer, le nom du forum.
C'est ça, l'enfer de Dante. Joli, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai expliqué la blague, je pense que les gens l'ont compris tout seul. Bref, la loi de Dante ou loi de Parker. Dites que pourquoi je fais une liaison ? Si une personne doit insister pour faire comprendre qu'elle a remporté un débat sur Internet, il est très probable qu'elle ait en fait perdu. Ça démontre un manque de patience. C'est le fameux « ta gueule, j'ai raison », qui est bien entendu hyper constructif dans un débat en ligne comme dans la réalité d'ailleurs. Malheureusement, il existe également une loi, on va dire, pas complètement opposée, mais qui a un sens plutôt relativement contraire, la loi de Demeyer, qui était modérateur du site Conservapédia. Alors, Conservapédia, c'est un Wikipédia créé pour contrer, je cite, la vision anti-américaine et anti-chrétienne de Wikipédia. Donc, ce mec-là, là, monsieur Demeyer, est à l'origine de 5 lois d'Internet, mais je n'ai pas réussi à trouver les 4 autres. Donc cette loi énonce que quiconque poste un argument sur Internet largement agrémenté de nombreuses citations peut être ignoré en toute sécurité. Il perd la bataille avant de l'avoir commencé. Moi, je trouve ça un peu cruel, mais c'est comme ça, la population source. D'Internet n'a... Pardon ?
Source, quoi. Source,
exactement.
Trop de sources fait que tu vas te faire...
C'est ça, les gens vont passer, vont peut-être passer au-dessus de l'information qui pourrait être intéressante.
C'est ce qui me fait dire que c'est... Pavé César, nous ne te lisons pas.
Oui, exactement. Tout à fait. Exactement. Pavé César. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à citer ça, mais c'est exactement ça. Pavé César. C'est un peu cruel, mais c'est comme ça. La population d'Internet n'a apparemment pas le temps de niaiser les théories du complot. Trouve en Internet un très beau terreau. Et d'ailleurs, la loi de Pomer, comme le fruit avec un R à la fin, vient de Rob Pomer. Et cette loi est née sur un wiki qui s'appelle Rational Wiki, voué à fournir des infos sur la science, le scepticisme et la pensée critique. Petit pont avec notre premier triphasé sur les théories du complot. L'opinion d'une personne peut être changée par la lecture d'informations sur Internet. La nature de ce changement sera de ne pas avoir d'opinion à avoir une mauvaise opinion. Après tout, si c'est sur Internet, c'est que ça doit être vrai. Ensuite, il y a la loi de Shaker. Alors, rien à voir avec les barman, bien sûr. Du nom d'un contributeur d'un forum, forum nommé Richard Dawkins. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. Moi, j'ai découvert l'existence de ce monsieur aujourd'hui. Et pourtant, qui est ce monsieur ? C'est un scientifique, un biologiste qui a un CV long comme le bras. Et surtout, c'est lui qui a proposé au monde, avec un grand M, le terme et la définition de même. Excusez du peu.
C'est un peu ton dieu, quoi.
Oui, on peut dire ça, ouais. On va dire que c'est le prophète un peu des mêmes.
C'est le même lord ultime, quoi.
Exactement. Donc, je cite la loi de Shaker. Ceux qui annoncent de manière flagrante leur départ imminent d'un forum de discussion sur Internet ne partent en réalité quasiment jamais. Attitude humainement compréhensible de se faire désirer. Ça me fait penser que j'ai lu... Ah oui, voilà. Donc, toutes les lois là, que je viens de vous citer pour le moment, je les ai lues sur un site Internet qui s'appelle Tom's Guide. Et donc, j'ai lu cette phrase cruelle sur ce site qui est aussi très drôle. Aussi sûr que personne ne veut rester, lui ne veut pas partir. Et d'ailleurs, récemment, j'ai découvert un nerchi parce que je suis, comme on parlait des mêmes lords et tout, je suis assez friand de nerchi sur Facebook. J'ai découvert récemment un nerchi anglophone qui recense toutes les attitudes du genre sur les groupes Facebook avec un grand coup de screenshots. Et ce groupe s'appelle « This group is not an airport, no need to announce your departure ». Ce groupe n'est pas un aéroport, alors ça ne sert à rien d'annoncer ton départ. Ce que je trouve vraiment mortel. Ensuite, il y a la loi de Haig, qui est le nom d'un site internet qui porte ce nom, H-A-I-G.
La on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est pas cette loi-là ?
Alors non, ça s'écrit H-A-I-G. Je suis désolé, ta blague tombe à plat, comme une omelette. Donc, je cite la loi. L'atrocité du design d'un site internet est directement proportionnelle à la folie de son contenu et de son créateur. Cette atrocité se mesure donc par une organisation anarchique, des camaïeux de couleurs flashy dégueulasses. Et en parlant de ça, je ne peux pas ne pas citer les Skyblogs, évidemment. Ne les cherchez pas, ça ne sert à rien. Mes Skyblogs d'adolescents sont supprimés. Voilà.
À ce sujet, il y a aussi un site internet chinois. Il faudrait que je retrouve le nom. On pourra le mettre en bibliographie du podcast. D'accord. Mais c'est un truc d'assureur et ça clignote de partout et les Chinois en raffolent et c'est grâce justement au fait que ça soit si clignotant que les gens achètent l'assurance.
Bah, je serais pas surpris que sur Facebook t'aies des nerchis de graphistes ou de concepteurs de sites web et qui cherchent les trouvailles les plus dégueulasses quoi.
Et ouais. Du coup Tinou Skateboard @skyrock n'existe plus. Alors on parie qu'on peut le retrouver grâce aux archives de l'Internet.
Il y a peut-être archive.org ou...
Ouais, archive.org pour le servir. Voilà, si jamais vous voulez voir Tinou dans sa jeunesse, archive.org. Et puis derrière, vous connaissez le nom du blog. Amusez-vous.
Sinon, le jour où on aura
laissez un comment.
Je vous envoie des photos de lui à poil.
Laissez un com.
Les dick pics, ouais, c'est ça. Ok, ensuite, il y a la loi de Skit, S-K-I-2-T, du pseudo d'un utilisateur d'un site qui s'appelle Alt Usage English, qui a l'air d'être un très vieux site. On parlait de design un peu old school et tout. Bah là, vous pouvez être servi. Un vieux site qui a l'air d'être consacré à la langue anglaise. J'ai pas bien compris à quoi il servait. Bref, cette loi énonce que tout poste corrigeant une erreur dans un autre poste contiendra, lui aussi, au moins une erreur. Ce qui peut constituer ce qu'on appelle dans le langage technique un joli retour de karma, décrit sur Tom's Guide comme le cauchemar du grammaire nazi. Tiens, encore les nazis. C'est vrai que sur Internet, les internautes semblent avoir une... Je dirais pas une passion, mais peut-être une certaine fascination pour le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le même auteur, donc Skit, énonce également que la probabilité d'une erreur dans un poste est directement proportionnelle à l'embarras qu'elle causera à son auteur. Alors, plus indirectement, pas forcément lié à Internet, mais quand même assez lié aux médias de masse, parce qu'Internet accélère grandement ce genre d'effet. On peut parler de l'effet Streisand. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, les gars ?
De Barbara ?
Alors oui, ça vient de Barbara Streisand, ouais.
Si tu parles de quelque chose, il va, enfin, t'en fais la promotion, enfin, où il va arriver. Fin...
Ah, ok, c'est même si tu démontes un truc, le trending va faire que tu en parleras. Exactement. Et du coup, qu'il sera encore plus visible.
Tout à fait.
Un bad
2003,
buzz est quand même un buzz.
C'est ça. En 2003, en fait, Barbara Streisand poursuit une société qui a pris une photo et diffusée et qui l'a diffusée de sa propriété privée pour empêcher sa diffusion. Mais le problème, c'est qu'à cause du procès qui s'est ensuivi, l'image a été massivement diffusé dans les médias, et plus de 400 000 personnes ont visité les lieux le mois suivant la diffusion.
Ça me rappelle, dans ce genre de truc-là comme ça, il y avait eu le scandale des comptes iCloud qui avaient été piratés je dirais 2009, 10, un truc comme ça. Et il y avait eu plein de photos à caractère pornographique, mais c'était des photos perso, en fait, d'actrices, d'acteurs, etc. Et fait d'avoir tous, en fait, porté plainte, d'en avoir parlé, etc., bah, en fait, tout le monde s'était mis à chercher ces photos-là, alors que, bah, même c'est vrai que c'est dommage, mais si personne n'en avait parlé, personne ne l'aurait su.
Tout à fait. Dans ce genre, Twitter est un média spécialiste du genre, d'ailleurs, avec les petits malins qui s'amusent à relayer les captures d'écran de tweets pour mettre en valeur des propos contradictoires ou de personnalité ou des tweets extrêmes regrettés par leurs auteurs et supprimés dans l'entrefaite, qui resteront dans la mémoire collective grâce à des héros méconnus qui doivent avoir soit une sacrée mémoire, soit une sacrée collection de screenshots. Donc, pour ce qui est de l'effet Streisand, en fait, c'est l'expression de ce qu'on appelle peut-être pas en économie, mais voilà, dans pas mal de sciences, un effet pervers. dont moi j'ai eu un, j'avais un exemple qui n'a rien à voir avec Internet, mais je vais quand même vous citer parce que je trouve qu'il est intéressant. Ça s'appelle l'effet Cobra. Lorsque l'Inde était colonisée par les Britanniques, encore colonisée et occupée par les Britanniques, alors ce que je vais vous raconter n'est pas certain, mais on peut quand même relativement imaginer que c'est vrai. L'Inde était des cobras pullulaient en fait en Inde à cette époque, à l'époque coloniale britannique, et les Britanniques ont mis en place un système de primes pour récompenser la chasse et le fait de tuer des cobras. Le problème, c'est que des petits malins se sont amusés à élever des cobras pour en vendre, pour en tuer plus et toucher davantage de primes. Lorsque les Britanniques ont compris la supercherie, ils ont levé le système de primes. Les éleveurs de cobras ont relâché leurs cobras dans les rues et il y avait plus de cobras après qu'avant.
Ça, c'est trop bien.
Rien du tout solutionné. Comment ?
Bah, c'est trop bien. Enfin,
ouais. C'est typiquement ce qu'on appelle un effet pervers. Enfin, il y a une célèbre. Donc, je reviens. On va quand même revenir vers le sujet qui nous anime, les lois d'Internet. Il y en a une célèbre, effectivement, que je n'ai pas citée, la règle 34. Alors, pourquoi la règle 34 ? En fait, la règle 34, c'est la 34e des règles d'Internet édictées par 4chan. Donc 4chan qui est ce qu'on appelle un image board en fait, c'était une espèce de forum où on pouvait partager à l'origine des images et qui en fait par la
l'enfer sur terre
c'est ça
une des phases de l'enfer,
c'est ça, qui est devenu un forum où on parlait vraiment de tout et surtout de n'importe quoi.
Bah, si l'enfer c'est le deep web, 4chan c'est une des portes qui y amène quoi.
Oui, effectivement, il y a un peu de ça. Donc, comme je vous disais, je vous propose d'écouter ces règles dans leur intégralité, je vais vous les citer, et d'essayer d'étendre ces règles à la navigation globale sur Internet, et vous comprendrez que les lois maintenant que je vais vous énoncer auront plus un sens légal du terme qui a réellement un sens de loi empirique de science, si vous voulez. D'ailleurs, j'ai trouvé cette traduction sur un WordPress qui s'appelle « Les histoires de Poupy ». Donc, encore une fois, je rends à César ce qui lui appartient. Règle numéro 1, ne parle jamais de « slash b slash », qui est en fait le gros canal de discussion de 4chan, où il y a à peu près, comme on disait, n'importe quoi. Ce chan constitue quand même 30% du trafic du site. La deuxième règle, ne jamais parler de slash b slash, évidemment une référence à ce club de castagne dont il ne faut pas parler. Hop, pardon, ma page a sauté, j'y retourne.
Et peut-être aussi à Voldemort.
Peut-être, mais le problème c'est que tu as cité son nom, donc on n'est pas dans la merde. Troisième règle de 4chan, troisième règle d'Internet, nous sommes Anonymous. Quatrième règle, Anonymous est Légion. Cinquième règle, Anonymous ne pardonne jamais. Sixième règle, Anonymous peut être horrible, insensé, un monstre sans cœur. Septième règle, Anonymous est toujours là. Huitième règle, il n'y a pas vraiment de règle sur comment poster. Neuvième règle, il n'y a pas vraiment de règle sur comment modérer non plus. Ça, tu m'étonnes quand tu passes sur 4chan, tu le constates. Dixième règle, si tu t'amuses sur d'autres sites, deux points, ne le fais pas, en majuscule. Onzième règle, aussi sensée et extrêmement bien choisie que puissent être vos arguments, ils pourront être facilement ignorés, ce qui est en quelque sorte un pendant de la loi de Meyer que j'ai cité tout à l'heure. Douzième règle, tout ce que tu pourras dire pourra être utilisé contre toi. Treizième règle, tout ce que tu pourras dire pourra être transformé en quelque chose d'autre ou corrigé. Quatorzième règle, on ne discute jamais avec les trolls, sinon cela veut dire qu'ils ont gagné. Quinzième règle.
Feed the troll, quoi.
Oui, exactement. Don't feed the troll. Quinzième règle, plus fort tu essaies, plus fort tu échoues. On dirait une traduction d'une chanson de Daft Punk, un peu, je trouve. Seizième règle, si tu rates de façon phénoménale, ton échec deviendra une victoire. Dix-septième règle, toute victoire finit en échec. Je trouve que c'est une vision plutôt pessimiste des choses, mais c'est plutôt bien, en fait, des fois les rater. En tout cas, c'est ce qui nous fait rire sur le net. Dix-huitième règle, tout ce qui peut être étiqueté peut être haï. 19e règle, plus tu hais quelque chose, plus elle deviendra forte. 20e règle, il ne faut jamais rien prendre au sérieux. 21e règle, un contenu original ne l'est que quelques secondes avant de devenir old. Donc vieux, passé de mode, voilà, 2019 quoi. 22e règle, le copier-coller a été inventé pour ruiner toute once d'originalité. 23e règle, le copier-coller a été inventé pour ruiner toute once d'originalité. voilà, c'est le
comic de répétition. Il existe deux comics, quoi. Le comic de répétition et le comic de répétition.
Merci, tu me coupes l'arbre sous le pied, c'est magnifique. 24e règle, chaque riposte est toujours le riposte d'un riposte. 25e règle, la relation entre le sujet original et la discussion diminue toujours au fur et à mesure des commentaires. C'est exactement ce qui a dû se passer d'ailleurs sur 4chan, qui était à l'origine un forum dédié à l'échange d'images, donc assez lié à la culture même. Et d'ailleurs, ça c'est vrai un peu dans toutes les discussions, dans tous les topics. Moi, quand je vois sur nos Discord, ça part quand même aussi relativement rapidement dans le n'importe quoi. 26e règle. Toute discussion peut être déviée jusqu'à aboutir à quelque chose de totalement sans rapport avec le sujet initial. 27e règle. Toujours demander à une personne ses préférences sexuelles sans aucune raison. Alors oui, ok. Pourquoi pas. 28e règle, toujours demander à une personne son sexe juste au cas où ce soit réellement un mec. 29e règle, sur Internet, toutes les filles sont des hommes et toutes les petites filles sont des agents du FBI. 30e règle, il n'y a pas de filles sur Internet. 31e, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça tombe, mais c'est comme ça. 31e règle, t'es sain ou tu dégages, à toi de choisir. Ça, je laisse ça à 4chan. Je ne comprends pas cette phrase, mais voilà, c'est comme ça, c'est la 31e règle d'Internet selon 4chan. 32e, tu dois toujours avoir une image pour prouver tes propos. 33e, traîne ou fouine sur Internet, ce n'est jamais assez. Et donc, 34e règle, si quelque chose existe, alors une parodie porno de cette chose existe sans exception. Donc ça, c'est la règle un peu la plus connue d'Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça par curiosité, chercher quelque chose comme ça.
Non, jamais. Il y a
un exemple.
Une parodie, pardon.
Il y a un exemple. Il y a un jeu arrivé, moi.
Les gens lient en bloc.
Oh, Big Bang Theory.
Ah, t'as déjà regardé, ouais.
Ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Gang Bang Theory.
The Gang Bang Theory, ouais, ce serait pas surprenant.
Ouais, c'est, les acteurs sont vachement ressemblants, c'est assez perturbant.
Oula, oui, ça doit être bizarre, ouais.
Donc, en fait, pour faire ma chronique, j'ai passé beaucoup de temps à regarder, pas des pornos, mais des datas sur les pornos. Et en ce moment, il y a une tendance qui est liée à coronavirus.
Bah oui,
et en gros, tu peux retrouver des vidéos avec des meufs qui vont avoir un masque, etc.
Mais quand la crise des gilets jaunes a commencé, autant ça a pas fait un pli. Hein. Il y a eu du porno gilets jaunes hyper bien sur
porn. Là-dessus, en fait, YouPorn, ils sont vraiment marrants parce qu'ils ont énormément de stats, forcément, vu le débit qu'ils ont. Façon de parler, ouais. Sur leur site, mais c'est-à-dire qu'ils ont énormément de stats et généralement ils les publient beaucoup en fait. Et pour le coup, régulièrement il y a des petits trucs comme ça, des tops de recherche, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment drôle.
Ouais, bah ouais. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Donc voilà, ça c'était la 34e règle et la 35e, excusez-moi pour le terme et le prolongement de la 34e, s'il n'y a pas de parodie porno pour l'instant, elle sera créée. 36e, il y a toujours une merde encore plus dégueulasse que ce que tu viens de voir. Alors là, je dis disclaimer, parce qu'en fait, quand j'ai lu cette règle, j'ai pensé directement à un site internet. Mais là, je suis obligé de vous prévenir. Si vous allez voir ce site, c'est à vos risques et périls. Ça s'appelle Rotten.com. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les gars.
Non, jamais, non plus, jamais.
Jamais,
non.
Jamais.
C'est le truc le plus horrible du monde. En fait, c'est une espèce de site qui rassemble des images, donc c'est des photos, d'accidents domestiques, d'accidents du travail, de suicidés, d'opérations, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Voilà, c'est pour ça que je préviens tout le monde. C'est vraiment l'enfer. Je me sentais obligé d'en parler parce que j'y ai pensé et tout. Mais si vous tapez ça, c'est vraiment à vos risques et périls parce que c'est vraiment ça soulève le cœur. Enfin, voilà,
et
si
ça existe encore
facilement impressionné. si ça... Alors, je n'ai pas regardé. J'ai pas tapé l'adresse, figure-toi. Mais en tout cas, sur Wikipédia, le lien est toujours là. Et l'article est toujours là. Je ne sais pas si le site est toujours fonctionnel, mais voilà. J'ai pas osé checker. Bref. Je fais rapidement. Il m'en reste une dizaine. 37, on ne peut pas faire une division par zéro juste parce que c'est juste parce que la calculatrice le dit. 38, il n'existe aucune limite qui s'applique ici, pas même le ciel. Sky is not the limit, du coup. Je pense qu'on peut.
Skyos is the limit.
Skyos, abemus skyos, ateritas maxima. 39, avec en majuscule, le bouton caps lock et le régulateur de vitesse du cool. 40, en majuscule, même avec un régulateur de vitesse, il faut continuer à conduire. 41, les blagues à base de dessous, qui sont des mèmes japonais utilisés dans les spams et qui servent à illustrer des conversations qui dérapent. Donc ces blagues ne sont plus drôles. Sérieusement, c'est pire que les blagues sur Chuck Norris. 42, rien n'est sacré sans exception. 43, plus une chose est pure et belle, plus c'est jouissif de la salir. 44, même si un seul commentaire positif sur des choses... même un seul commentaire positif sur des choses japonaises peut faire de toi un oui à vous. C'est un wannabe, en fait. Wannabe Japanese, qui veut dire, en fait, que tu as envie de devenir... Bon, en fait, c'est un truc pour les otaku, quoi. Ce qui fait que pour les gens qui sont amateurs de manga, d'anime, machin, ce que je trouve un peu condescendant, en fait. Globalement, je trouve que ces règles ont un ton assez hautain, mais voilà, ça n'engage que moi. Ça me fait penser au lit, d'ailleurs, au lit speaking, qui, par définition, veut dire l'élite et qui est directement un héritage de la culture informatique et web. Le lit speaking, c'est insérer des caractères et des chiffres au milieu des lettres pour brouiller son écriture. Lit speaking, l'écriture de l'élite. Lit s'écrit 1337, c'est lit en lit speaking. Bref. 45, quand tu es en danger, mets-toi à l'abri. 46, si quelque chose existe, alors une parodie hardborn de cette chose existe. Extension donc naturelle de la règle 34. Et il y a une 47e que je ne connaissais, que je connaissais pas, ce réseau social Habbo Hotel. The pool is always closed. C'est un mème lié à des raids menés par les Anonymous contre ce réseau social qui aurait exclu des membres dont les avatars n'étaient pas blancs de peau. Donc voilà, non seulement ces règles sont clairement écrites, mais en plus j'ai trouvé un site intéressant qui s'appelle sobrement therulesoftheinternet.com qui répertorie en plus de ces règles des développements qui les étoffent un petit peu. Je vous laisserai aller jeter un œil si ça vous intéresse. Et il y a d'autres lois, on va dire, un peu plus tacites qui sont des poncifs, mais qui n'en sont pas moins parés d'une certaine réalité. C'est un peu comme les lois que ta mère pourrait te sortir sur Internet. Internet n'oublie jamais. On en a parlé tout à l'heure avec Twitter. Ou tout va très vite sur Internet, etc. Mais bon, c'est bien parce que nos mamans veulent notre bien, évidemment. Désolé, donc, pour conclure, je présente mes excuses pour l'approximation de cette intervention. Mais vous savez, voilà, Internet, quoi.
Et donc, pour info, Rotten n'était plus mis à jour depuis 2009 et depuis 2017. Le nom de domaine a disparu.
D'accord.
Donc c'est bien fermé. Donc,
c'est bien fermé. Très bien, super. Bah merci pour cette information intéressante. Écoute, moi j'avais, vous comprendrez, pour ceux qui sont déjà allés sur Rotten, vous comprendrez certainement pourquoi j'ai eu des scrupules à aller vérifier si c'est.
Moi je trouve qu'enculer des poules, c'est pas dégueulasse.
je te laisse ce propos.
Même décentraliser voilà. Finance ce propos.
Oui, c'est ça, ouais. C'est une poule enculée.
C'est une poule enculée.
Ok. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup, messieurs, de votre attention. On va pouvoir clôturer cette chronique avec un jingle et tendre le crachoir à notre ami Victor. Victor, comment vas-tu déjà?
Je vais très très bien. Je suis très
super.
Content.
Super. Très satisfait.
Très satisfait de cette première chronique.
Merci beaucoup.
Qui a montré beaucoup de choses, notamment ce qui me faisait rire, c'est que parmi ces règles, je trouve qu'il y en a beaucoup de vraies, finalement, même si certaines sont un peu hardcore ou quoi que ce soit. Il y a certaines règles qui, je sais pas si vous allez sur Facebook des fois, mais dans certains groupes de villes ou quoi que ce soit, on se retrouve toujours à avoir de l'argumentation, des débats qui n'en finissent jamais, et ça me fait beaucoup rire. Donc, merci d'en avoir dicté les règles.
Ah ben je te remercie beaucoup, Victor. Et donc, comme je l'indiquais, c'est à ton tour. Donc, nous sommes tout oui, mon cher.
Eh bien, écoutez, dans cette chronique, je vais vous parler un peu de tout, parce que j'ai pas réussi à trouver une chronique sur un sujet précis comme tu viens de le faire, Étienne. Bon, et moi, ce que je trouve fou avec Internet, c'est que c'est des millions de réseaux interconnectés qui permettent à un habitant de Mongolie, par exemple, de consulter un site pornographique qui va être hébergé au Canada. Je me suis perdu, à l'instant où j'ai écrit cette phrase, je me suis perdu parce que je suis allé voir la durée de visite moyenne d'un site pornographique par un habitant de Mongolie. Et il est d'environ de 5 minutes 28, parce que grâce à Pornhub, nous avons toutes les données. Et d'accord. J'ai ensuite regardé quel était le meilleur, et le score est à relativiser, car les champions en la matière, ce sont les habitants de Cuba, avec une performance de 5 minutes en moyenne top chrono. Bref, cette toile permettant aussi à un ingénieur de la NASA de pouvoir contrôler le robot Curiosity sur Mars, je ne sais pas si vous avez vu l'info passer.
Ah non.
En fait, il y a un ingénieur de la NASA qui est en télétravail à cause du coronavirus et qui contrôle depuis son bureau chez lui le robot qui est sur Mars. Et j'en ai déduit qu'il avait probablement essayé de le contrôler depuis son lit parce que c'est le meilleur endroit pour travailler.
Probablement. On n'a pas tous les chiottes aussi. Apparemment.
J'allais dû vous dire, moi là, actuellement, là, je suis sur les chiottes, donc ça s'entend pas, mais c'est plutôt cool de faire le podcast sur les chiottes et pour une fois de ne pas manquer à un pan de la conversation.
Donc, j'ai hésité à le faire depuis mon pieu, j'avoue.
Bah moi je suis sur le pieu et puis là je suis descendu, j'avais envie de pisser, mais donc franchement c'est pas mal le podcast à la maison.
On va peut-être le refaire.
Avec grand plaisir. Du coup, ça me permet aussi à moi, un habitant d'une petite bourgade de Haute-Savoie, de jouer à une machine à grue d'une foire en Corée du Sud afin d'obtenir une peluche. Et c'est ça qui est incroyable avec Internet, c'est que ça permet de relier énormément de personnes.
Mais tu la reçois ou pas ?
Tu la reçois, le délai de livraison est un peu long, mais tu la reçois entre 4 et 5 semaines. Ça existe vraiment, tu peux contrôler un.
Est-ce que tu prends la patate de gitan aussi ou pas?
Je crois qu'elle est dans le colis, ouais.
Une pêche au canard, ouais.
Du coup, j'ai décidé du thème il y a 10 jours, je crois, à peu près. Et la manière dont je l'ai abordé, ça m'a rappelé étrangement la même manière dont j'abordais les examens quand j'allais à l'école. À savoir. La deadline est dans 4 jours et je m'y suis toujours pas mis. Et à un moment donné, je me dis, il faut vraiment que je m'y mette. Et du coup, au bout de 3 jours, j'ai quand même décidé de m'y mettre vraiment. Et ce qui est étrange un peu avec moi pour Internet, c'est que c'est à la fois mon quotidien en tant qu'internaute, comme vous et des millions de personnes, mais c'est aussi mon lieu de travail et mon gagne-pain en tant que développeur. Du coup, c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette chronique, parce que c'était un peu un tout pour moi et je me suis rendu compte que c'était hyper important en fait. Et du coup, je me suis interrogé sur ma relation, finalement, avec Internet depuis ma naissance. Et du coup, je suis né en 1996, ce qui fait de moi la personne la plus jeune autour de cette table, bien évidemment.
Cette table. Bah, on ne sait pas, c'est Internet, je n'ai pas le droit de dire mon âge.
C'est vrai. Et du coup, j'ai regardé à quoi ressemblait le web en 1996. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà ce que j'en retiens. Déjà, Google n'existait pas. Le site de l'Assemblée nationale et Yahoo étaient les plus esthétiques. Et le FN dénonçait déjà une hypothétique censure médiatique dans la phrase d'accueil de son site. C'est-à-dire que vous arrivez sur le site et la première chose que vous voyez, c'est « Contre la désinformation des médias, suivez-nous sur notre site internet ».
C'est incroyable.
Donc, comme quoi, depuis 1896, les arguments n'ont pas forcément changé. Et du coup, 2 ans après 1996, à savoir 1998, Google arrivait sur un marché déjà très occupé et leur innovation résidait dans la manière d'agglomérer les sites internet. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sites internet qui permettaient de trouver d'autres sites qui ont disparu. Et en fait, pour être franc avec vous, j'ai aucun souvenir de mes premières rencontres avec Internet, et finalement, c'est peut-être pas si mal, parce que je pense que ça devait pas être très intéressant. Mais ce que je peux vous parler, c'est la relation avec les jeux vidéo, qui a commencé très rapidement, et notamment avec les jeux vidéo en ligne, notamment MMORPG et FPS. Et je peux vous dire que chaque nouvelle partie, chaque heure supplémentaire passée me rapprochait du web, et le lien devenait de plus en plus ancré. Le jeu qui me mariera avec le web sera Counter-Strike à l'âge de 15 ans. Je pense que certains d'entre vous ont joué à Counter-Strike, mais peut-être pas à la même version que moi.
Non, le source et puis...
1.6, mon gars.
1.6, ouais. Là, le vrai.
J'étais trop jeune encore pour jouer à 1.6. Du coup, pour résumer, Counter-Strike, c'est 3 ans de vie commune, avec plus de 2500 heures cumulées pour ma part. Ça fait environ 100 jours.
Hey mec, c'est ta plus grande relation ?
C'est actuellement ma plus grande relation, en effet. Et du coup, j'ai calculé, je me suis dit que j'allais mourir peut-être à 75 ans, en tout cas je l'espère, ce qui fait environ 25 000 jours. Et j'ai calculé, j'aurais donc passé environ 1/200 de ma vie à jouer à ce jeu. Et pourtant, j'ai aucun regret. Et voilà. Et l'une des raisons pour lesquelles je travaille...
Dans une vie, 1/200 ouais. Je trouve ça énorme, en fait.
Ouais, bah, calcule le temps que tu passes aux chiottes, déjà, tu vas voir, à mon avis, tu vas flipper. Hein.
C'est pour ça qu'il faut pas y aller trop longtemps. Et du coup, l'une des raisons pour lesquelles je travaille en tant que développeur web aujourd'hui, c'est probablement dû à cette période. Et en fait, à cette période, je me battais en permanence avec mes parents pour pouvoir jouer. Et il y avait une guerre, en fait. Mes parents faisaient tout pour m'enlever du monde de l'Internet.
Et encore, t'as la chance, parce que c'était déjà illimité à ce moment-là. Mais
oui,
quand nous, on a commencé Internet, je peux te dire que le forfait 50 heures, il cramait au bout d'une semaine. Hein.
Oui, ça allait très vite, ouais.
Et c'était quoi? C'était 50 heures par mois, c'est ça?
Ouais, et 50 heures, tu le payais déjà une couille. Hein.
Ouais. Bah, moi, c'était justement contre mon père, parce qu'il me mettait des... je sais pas si vous avez eu ça, mais il me mettait des plages horaires sur l'ordinateur. Et du coup, ça, c'était...
Non, mes parents l'ont jamais fait, mais oui, tu peux le faire, effectivement. Ouais.
Ça a été la première attaque, et j'ai dû riposter. Et en fait, mon père avait une plage horaire assez longue le samedi, et du coup, à chaque fois que je démarrais mon ordinateur, j'allais dans les paramètres de l'ordinateur et je modifiais la date et l'heure. Du coup, je me mettais tous les jours, on était samedi sur mon ordinateur. Jusqu'à un jour...
De toute façon, avant mes 18 ans, de toute façon, j'étais sur ordinateur parental, donc c'était pas...
Et du coup, il y a eu la deuxième idée de mon père qui était de mettre la plage horaire du Wi-Fi. Et là, c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que je trouve des subterfuges pour pouvoir le contrer. Et donc voilà, en fait, tout ce combat, je vais pas le résumer pendant très longtemps, mais tout ce combat, il m'a amené à être curieux et à comprendre comment l'Internet fonctionnait, comment les ordinateurs fonctionnaient. Et en fait, c'est grâce à ça que je suis devenu aussi curieux de l'informatique et du coup que je fais ce métier maintenant. Et du coup, la deuxième raison pour laquelle je travaille sur Internet, c'est que c'est vaste. Et juste pour vous démontrer, inutile de vous expliquer le nombre d'heures que j'ai pris pour écrire cette chronique. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais j'ai passé beaucoup plus de temps à être égaré sur des sujets comme la consommation de pornographie pays par pays qu'à vraiment écrire ma chronique, en fait. Et tout en continuant mon égarement, j'ai découvert un projet extraordinaire, mais je te laisse parler, Étienne, vas-y.
Pas de soucis, non, c'était plus sur le ton de la blague. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à me perdre sur Internet, surtout que j'écoute pas mal de musique en ce moment et j'en fais aussi beaucoup. Et j'ai passé beaucoup de temps à me perdre dans d'autres occupations liées à Internet parce que je diffuse ce que je fais en ce moment, etc. J'ai passé beaucoup de temps à procrastiner sur Internet parce que c'est aussi un gouffre temporel que tu aies une chronique à écrire ou pas. Voilà, c'était là-dessus en fait que je voulais rebondir, tout simplement.
De toute façon, chronique ou pas, je passe beaucoup de temps sur le pont. Donc,
Exactement, bien sûr. Putain.
Bah, il faut bien que quelqu'un regarde pour faire les datas. Hein, donc,
oui, mais... il faut bien des stats. Hein. Il faut bien remplir les cases. Hein.
Il faut bien qu'il y ait des Mongols qui se connectent sur les serveurs du Canada, quoi.
Ouais, j'ai utilisé tous les VPN du monde pour faire les données de tout le monde. Hein.
C'est un peu triste d'ailleurs que ton IP voyage plus que toi.
Bah ouais, mais je peux dire que mon foutre...
Bref, vas-y, continue Victor.
Du coup, tout en continuant mon égarement, j'ai découvert un projet un peu extraordinaire et ça m'a donné tout d'un coup l'envie d'en parler. Et c'est un projet informatique par l'hébergeur en ligne de projets informatiques, justement, qui s'appelle GitHub. C'est l'un des plus gros. Je pense que certains d'entre vous connaissent, notamment Crossfire.
Attends. D'où tu cites mon blaze sur Internet? GitHub, c'est moi.
GitHub. c'est son pseudo de hardeur, tu l'as révélé.
Et du coup, ils ont lancé un projet. Et pour être sûr que tous les projets informatiques publics créés depuis 30 ans, ils soient toujours disponibles dans 1000 ans, ils ont décidé de racheter une ancienne mine à Svalbard. Donc, c'est situé au-dessus de la Norvège et à droite du Groenland. Et donc, c'est dans le cercle arctique. Et ils vont y stocker tous les projets sous forme de gigantesques QR codes imprimés sur du papier résistant.
Oh, c'est trop bien, ton projet.
L'idée, c'est de pouvoir garder tous les projets informatiques qui ont été créés et d'en avoir une trace. C'est un peu de l'archéologie du futur, en fait.
Alors, je peux te dire que vu la merde que j'ai mis dessus, ils vont être bien contents de retrouver ça dans 10 000 ans.
Alors, il y a certaines conditions, il faut avoir certaines étoiles, il faut que ton projet ait été validé par plus de 200 personnes.
Ah ouais, j'imagine, ça leur permet de filtrer pas mal de projets, je pense.
Bah oui, j'imagine. Ouais, exactement. Et ça me fait penser à ce que Nicolas nous avait raconté sur le survivalisme et les technologies. Le fait qu'on puisse faire subsister en cas de catastrophe.
Le prompt.
Alors oui, pourquoi pas, parce que c'est quand même vachement utile. Non, mais le fait qu'on puisse...
Non, mais les piles que tu trouves le plus couramment dans certaines batteries et qui te permettent de construire justement à partir de...
C'est un peu la même chose.
Ouais.
Ok, du coup, c'est un peu garder les bases des technologies pour pouvoir survivre en cas de problème. Et du coup, à partir de ce projet-là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait un autre projet qui avait été créé, qui allait encore plus loin, des millions d'années ou des choses comme ça? Et j'en ai trouvé un. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça pourrait être?
Des peintures rupestres porno?
Une sauvegarde comme ça, quoi?
Ouais, c'est ça. Avoir une sauvegarde de ce qui a été fait dans le monde de l'informatique depuis 30 ans.
Bah, peut-être des trucs envoyés dans l'espace?
Eh ben, pas effectivement, mais c'est un projet dont j'ai déjà entendu parler de ce projet, donc je pense qu'il existe aussi. Mais le projet dont je vais vous parler, c'est un projet qui est en cours chez Microsoft. Et du coup, l'idée, c'est de récupérer, encore une fois, tous les projets informatiques publics et de les écrire sur des plateaux en verre de quartz à l'aide d'un laser.
D'accord.
Et du coup, la durée de stockage, elle serait de 10 000 ans. Donc ça fait quand même...
Ça fait des belles tables basses en verre. Hein.
Ça fait des très belles tables basses en verre. Et du coup, j'ai voulu m'interroger sur qu'est-ce que c'était le verre de quartz, et j'ai commencé à faire des requêtes pour comprendre les avantages du verre de quartz comparé à d'autres verres. Et je me suis rapidement ennuyé et j'ai arrêté. Et je me dis qu'il serait
intéressant. Surtout.
Exactement, sur un petit détour.
Et je suis sûr que si je tape verre de quartz dans Pornhub, je vais avoir des bons résultats.
Mais roule 34.
Je te laisse faire la requête et tu me diras ça à la fin de...
Bah c'est simple, il y a des sextoys en verre et donc du coup qui gardent, enfin ils sont utilisés parce que justement en termes d'impureté et en termes de transmission corporelle, de problèmes de caoutchouc, etc., les sextoys en verre sont bien plus résistants. Donc je me doute que pour garder des données, tu peux te faire un sextoy en verre avec des datas du web.
Hein. C'est-à-dire que tu peux te mettre des datas dans tes organes, quoi.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de vous apporter quelques chiffres surprenants sur Internet. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un éclair de génie ou un éclair de paresse. Et je me suis demandé si je vous ferais pas passer un quiz d'Internet. Et du coup, j'ai 5 questions à vous poser avant de finir ma chronique. Et voilà, on va commencer. Quel pays consomme le plus de pornographie dans le monde entre l'Inde, le Brésil, les États-Unis et la Russie?
Brésil.
Brésil.
Non, ça reste les États-Unis.
D'accord. Moi, j'aurais dit l'Inde pour la
population. C'est genre par personne,
pour la population, en fait.
Ouais, c'est par personne en moyenne, ouais. C'est par personne en moyenne. Du coup, c'est les États-Unis. Combien représente l'ensemble du streaming vidéo et Facebook dans le monde en pourcentage de consommation d'Internet?
Ah, je dirais... Tu veux dire sur la bande passante totale, globale?
Ouais, ouais, exactement.
Oula.
Ouais, 50%, c'est du porno.
Donc,
tu comptes le porno là-dedans ou pas?
C'est inclus dans le streaming vidéo, en effet.
D'accord.
Allez, 30%.
À mon avis, on n'est pas loin des 60%.
Ouais, moi j'aurais dit 55.
C'est exactement les 60%.
Ah, bravo.
Ouais, mais je vous ai dit, je passe pas trop dessus.
Bah oui, c'est lui qui fait le trafic, du coup. Parmi les pays suivants... Surtout
les stats, c'est sa passion.
T'as pas de soucis. Parmi les pays suivants, lequel a interdit certains mèmes? La Russie, la Chine, la Turquie ou le Maroc?
Turquie.
Ouais, la Turquie.
Russie, aussi, ouais. Russie avec Poutine.
Ouais, c'est la Russie avec Poutine. En 2006 ou 2007, il me semble, il y avait des mèmes de Poutine en gay, en fait, déguisés en gay. Et ils ont été interdits.
J'ai apprécié. Il a dû aimer, ouais.
Bah, c'est la période de mémoire, c'est la période Pussy Riot, etc. Donc la répression était assez violente en fait sur cette période-là, et notamment sur les activismes LGBT en Russie. Donc, ouais.
C'est la série où il était avec des ours. Mais...
Voilà. Ouais. C'est...
Et du coup, j'ai encore deux questions. Pays les... où les internautes passent le plus de temps sur Internet. Émirats Arabes Unis, France, Mexique ou Philippines?
Allez, France, parce qu'on est tous des branleurs.
Non, c'est les Philippines avec 10 heures passées devant l'ordinateur en moyenne par habitant.
Là, et gros, là-bas, les centres de travail, non? C'est pas à cause des centres de télétravail qui sont là-bas?
En fait, il passe environ 6 heures devant l'ordinateur, ce qui peut correspondre effectivement à une journée de travail, mais ensuite, ouais, ils passent environ 4 heures sur Internet depuis leur mobile. Ce qui est gigantesque. Et du coup, combien y a-t-il d'internautes dans le monde? 1,5 milliard, 2,5 milliards, 3,5 milliards ou 4,5 milliards?
Bien la moitié, 3,5.
Allez, moi, je dis 2.
Ouais, Crossfell est décidément le génie de l'Internet avec 2,5 milliards d'internautes dans le monde, dont 37% en Asie, 27% en Europe et 17%
Ça fait beaucoup de nazis, quand même.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai compris
beaucoup de nazis, en effet.
Point Godwin.
Voilà. Du coup, le quiz est fini et il est temps pour moi de vous repasser le micro que j'ai eu la chance d'avoir grâce à vous. Et du coup, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
C'était bien cool. Beaucoup, Victor. De toute façon, super. Il y avait des stats, donc moi, ça me fait plaisir.
Très intéressant et j'aime beaucoup. C'est hyper chouette que tu aies parlé de ta relation, on va dire, un peu affective à Internet. Moi aussi, j'ai une relation un peu particulière avec Internet parce que mon papa, il travaille chez Orange.
Chez Pornhub.
mon papa travaille chez Orange et quand Internet est arrivé, c'était massivement c'était France Télécom et du coup, je l'ai vu quand même arriver relativement tôt et je l'ai vu se former beaucoup, pas mal. Donc, clairement, on a quand on voit ça arriver, ce phénomène, c'est quelque chose. On entretient quelque chose d'un peu spécial avec cette technologie. Merci beaucoup, Victor, pour ta chronique très intéressante.
Je vous en prie, messieurs.
Super, on va enchaîner sur la capsule.
Donc, comme on est à rendre la salade à César, je me dois de rendre cette capsule à Nathalie, qu'on a déjà eu dans le récap, et c'est elle qui nous a fait cette petite capsule, qui est un sel ou poivre du Burger Quiz. Et donc, les deux choix, c'est Hubert Bonisseur de la Batte, donc OSS 117, ou
tout à fait.
Jacques Chirac.
Oh, ça peut être facile, ça.
Alors, ça ne peut pas être les deux, par contre. D'accord ?
D'accord.
C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, première, si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre. Vous pourriez au moins vous occuper du manger.
Ça, c'est Hubert Bonisseur de la Batte.
Ouais, c'est bien le cas. La femme idéale, c'est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui suit les hommes à table et ne parle pas.
Ça, Chirac. Elle est géniale, celle-là. Celle-là, elle est magique.
Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait résisté?
C'est Hubert.
C'est bien lui aussi. Enfin, ça fait un peu Jacques Addy de pas charcuterie.
Chirac.
C'est Jacques, ouais.
Non, c'était Hubert.
Ah ouais, sérieux?
Ça fait plaisir que vous ayez confondu, ouais.
ça nous a perdu.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut cette ménagère? Mes couilles sur un plateau?
Ça, c'est Chirac.
C'est Jacques.
Ça, c'est Chirac. Ça.
C'est bien Chirac lors d'un sommet européen en 88 en parlant de Margaret Thatcher.
Ah, c'est Merkel, mais c'est Thatcher.
D'accord. Oh la violence.
Ouais, c'était pas encore Merkel à son époque.
Ouais. Okay.
Allons boire à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent.
C'est Chirac.
C'est bien Chirac quand même. En 92, lors d'un déplacement pour la législative pour soutenir Jean-Louis Debré.
Oh putain, Jean-Louis.
Ah oui, Jean-Louis Debré, ouais.
J'ai fait de l'humour juif, je crois que séquence n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse.
Hubert Bonisseur de la Batte.
C'est bien lui. Je ne vois pas trop l'intérêt de ressembler à une femme.
Hubert.
Hubert, je pense.
C'est bien Hubert. Bien sûr que je suis de gauche, je mange de la choucroute et je bois de la bière.
Ah, ça, c'est...
Chirac.
C'est Chirac, ouais. Ouais, je pense.
C'est Chirac lors de la campagne présidentielle de 95.
Ouais.
Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
Ça, c'est Chirac. Hein.
Chirac.
Alors, c'est Chirac, mais c'est aussi Patrick Sébastien. qui a une musique qui s'appelle comme ça.
Ça me fait penser à une autre de Chirac que je ne vais pas te dire parce que...
Elle est peut-être plus tard. Ouais, tu la diras à la fin.
Ouais,
alors, la suivante, c'est un chef, c'est fait pour cheffer.
Chirac.
C'est Chirac, ouais.
C'est Chirac. Une dictature, comme vous y allez, vous êtes sympathique, mais épargnez-moi vos analyses politiques.
C'est Hubert.
C'est tout à fait Hubert. On ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme.
Chirac. Quentin.
C'est bien Chirac. On dira ce qu'on veut, la France, ça reste le pays des 400 fromages.
Chirac.
Oui, à propos de la difficulté de gouverner les Français.
Mais, ouais.
Alors, non. C'est Hubert Neufort de la Batte. Et par contre, c'est De Gaulle qui a dit « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 158 variétés de fromage ?» On en a parlé lors du podcast sur Pablo Escobar. Suivante. « Soyez gentil de me laisser parler et cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet. »
Ça, c'est Chirac.
Chirac.
C'est bien Chirac. Alors, je crois même qu'il parlait à sa femme.
Non, c'était pendant un débat.
Un débat Ah, c'est possible.
Ouais, un débat.
Avec Bolloré, me souffle-t-on dans l'oreillette.
Ah, d'accord.
Alors, je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit à une brune aux yeux marrons.
Chirac. Hubert.
Ah, ça c'était pourrait.
Hubert, ouais. Ça pourrait être Chirac aussi.
Ouais. Carrément, ouais.
Je sais que j'ai une gueule de droite, mais on ne peut pas se refaire.
Chirac.
C'est bien Chirac. Et donc, c'est terminé. Donc, si la tienne n'était pas là, Étienne, tu peux.
Tout à fait. Les emmerdes, ça vole en escadrille.
La classique. Mais ça, c'était trop simple, comme tout ce qui était à base de Corona et tout.
Je retrouve pas dans quel contexte, mais ça devait être à propos des emplois fictifs, peut-être, de l'Amérique.
Ça se peut, ouais. Tout à fait.
Je pense que ça devait être quelque chose comme ça. Super, merci beaucoup pour cette chronique fort amusante. Merci à Nathalie, et pas à toi, Crossfell. Pas bien. Tac,
pas bien.
Par écran interposé. Je te mets un coup de férule. Super, on va déjà entamer les choses par un jingle. Et tendre le micro, donner la parole à Guy. Guy, à ton tour, on t'écoute, on est tout oui, cher ami.
Ma chronique s'appelle donc « Never trust a girl without a record collection » ou « Comment j'ai pris un abonnement à Spotify Premium ». J'ai encore mon premier baladeur CD, il marche toujours. Et je me rappelle me balader fièrement avec lui au collège en 2003. Et il lisait d'ailleurs certains CD gravés. Je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle précisément qu'il fallait appuyer sur « Play » à un moment bien précis pour que le CD soit lu. Bon, ce qui était des CD-RW, c'était mort. Mais bon, j'étais déjà content, j'avais quand même des compiles à moi. En 2005, au lycée, j'ai fait un TPE dans le grand thème « Rupture et continuité ». On avait choisi avec Julien « Nirvana et le grunge »,« Mort et fin d'une icône »,« Mort et fin d'un style ». Et ouais, mon TPE, ça avait de la gueule. Mais figure-toi, Titos, qu'en 2005... Tu avais 9 ans, oui. Et YouTube pointait le bout de son nez, mais ce n'était en aucun cas une plateforme musicale. Afin de trouver de la musique, on a longtemps téléchargé via des belles plateformes, Emule, Shareza, Lamoyeur. Ah, c'était génial, non, c'était l'enfer en vrai. Mais également, on allait acheter des disques chez le fameux Brothers Music. On regardait MTV chez Julien le samedi soir, on matait des clips, et après en télécharger. Des souvenirs gravés à vie quand après une journée de téléchargement, tu chopais l'album Bumbig 182 ou un vieux pron dégueulasse. Ou parfois un vrai clip de Blink 182. Oh, on disait 182 à l'époque, c'était cool. Et la musique nous suivait d'une manière complètement différente. Plus tard, j'ai eu un lecteur MP3 avec un écran. Là, c'était la révolution. Bon, en vrai, l'écran, il a duré 4 mois. Car à cette époque, on jouait à se donner des béquilles dans la cour de récré. Et j'ai pris une grosse béquille qui a défoncé mon écran. Bref, ce lecteur m'a quand même suivi tout mon lycée. J'avais mémorisé par cœur les menus, les titres d'albums, afin de les retrouver à chaque fois dans l'ordre que je voulais. Et ouais, on n'avait peut-être pas Internet, mais on était débrouillards. Julien, lui, était encore plus à la pointe que ça. Il avait un lecteur mini-disque. C'était l'avenir, il paraît. Tu connais ça, toi, Victor ? Les lecteurs mini-disques ?
Ah, c'est le
voilà,
futur.
C'est l'avenir, c'est le futur.
En vrai, la génération à nous, il y en a très peu qui connaissent quand même, enfin, qui l'ont utilisé en tout cas.
Ouais, vous chercherez, c'est assez marrant. Julien en avait un, s'en est pas servi très longtemps. Bref, on était quand même tous émerveillés devant cet objet assez bizarre. Quelques années plus tard, en prépa, j'avais Tom en ami. Tom, c'est le créateur de MySpace. Et là, début du streaming pour moi. J'ai découvert beaucoup grâce à MySpace et à les connexions que ce site te proposait. J'ai la mémoire de découvrir Pagoda et de commencer à écouter de plus en plus de punk rock français, des Trois Fromages, Nietzsche's ou autres. Et là, c'est l'avènement du streaming dans ma vie. Un copain me présente Deezer en me disant « ça, c'est l'avenir ». J'avais halluciné du choix directement proposé. Mais c'était énormément mainstream et radiophonique. Bref, mes écoutes, c'était pas vraiment ça. Ça m'impressionnait, mais c'était pas ma cam. Du coup, moi, je me suis dirigé pendant plus longtemps vers MySpace et les radioblogs. Radioblog, putain, ça, c'était bien. C'est une radio qu'on pouvait monter chez soi avec les sons qu'on avait, qui nous appartenaient ou non, et qui te permettait de récupérer directement, via d'autres radioblogs, des sons. Et là, ma capacité à découvrir s'est agrandie. Mais bizarrement, c'est pas là où j'ai découvert le plus de sons. Il faut lier cette époque, 2008, avec la période où je faisais 1 à 4 concerts par semaine, et on chopait des CD ou des démos régulièrement. Bref, en alliant radioblog et concerts, j'avais du son à dispo et un max de son. On chopait les CD, on les gravait pour les faire tourner. Bref, pendant longtemps, j'ai mélangé le stream et le CD. Puis le punk rock a fait ce que je me suis mis au vinyle, parce que bon, pour 10 balles, j'avais un vinyle et un téléchargement d'album. Et au final, en streaming, on m'a conseillé autre chose. On m'a conseillé Bandcamp. Et ouais, ça marche toujours et j'adore ce site. Tu pouvais choper ton album, l'écouter en streaming, le télécharger, passer des commandes. C'est une plateforme qui est super, vachement indé, qualité optimale, sans pub. Bref, un plaisir sans fin si tu cherches bien. Je me suis fixé il y a un an et demi l'objectif d'écouter 52 albums différents par année. Et ceci afin d'élargir ma connaissance musicale et enfin de prendre le temps de découvrir des groupes US que j'avais longtemps délaissés au profil du punk rock franco-français. Et là, c'est devenu la merde. J'avais 30 ans, et plus les fois de faire 4 concerts par semaine. Et même en chopant 4 vinyles par concert, j'étais incapable de réaliser cet objectif. Que faire de ma pile de CD et de vinyles non écoutés? Elle n'était même pas suffisante pour ça. Et là, Spotify est apparu, tout simplement, même si j'ai lutté pendant très longtemps. Il faut dire que l'opportunité était trop belle pour la rater. J'ai réussi même à découvrir des groupes russes, aka Moscow Death Brigade, un groupe israélien, Not On Tour, des Australiens qui s'appellent Clown, des Canadiens de Propagandy. Bref, mon approche de la musique a pu s'agrandir grâce à Spotify. Mais alors pourquoi cette chronique s'appelle Never Trust a Girl Without a Record Collection? Comment j'ai pris un abonnement à Spotify Premium? Quand j'avais 20 ans, je me suis écrit un texte à lire pour mes 30 ans. Dans ce texte très personnel, 2 phrases parlaient de musique. Et je me demandais ce qu'allait devenir ma collection de CD dans 10 ans. Et je me promettais aussi que je ne serais pas ce genre de connard à n'avoir que du numérique. Car la musique, pour moi, ne se partage pas ainsi. Et là, j'ai vu ma pile de vinyles, de CD. J'étais quand même fier de moi, car j'ai réussi à m'adapter et à avoir l'offre numérique énorme face à moi, et à m'en satisfaire. Mais à toujours avoir cet objet physique et magique avec moi. Alors aujourd'hui, certes, j'ai un abonnement Spotify Premium, mais je continue à acheter du CD et du vinyle dès que j'en ai l'occasion. Car je suis le genre de connard qui écoute 10 fois le même album, dans la semaine, jusqu'à le connaître par cœur. Chaque chanson, chaque enchaînement, chaque morceau, de A à Z. Et c'est là où je voulais amener cette chronique. Les internets vous proposent tellement de choix que tu peux bouffer de la musique comme tu veux, mais c'est comme la radio. Tu bouffes plus facilement de la merde qu'autre chose. Alors que se procurer un CD, un vinyle, une cassette, c'est pas pareil. Il y a ce côté construction de personnalité. Bref, chaque album que j'ai, chaque vinyle que j'ai raconte un petit morceau de moi. Bref, dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es.
Super, merci beaucoup Tanguy. C'était hyper touchant. Personnellement, je me retrouve beaucoup dans ce que tu racontes. Merci beaucoup pour cette chronique très élégante et j'en profite pour embrasser Julien que tu as cité.
Ouais,
oui.
Moi, je me rends compte à quel point j'ai raté une époque.
Ouais.
Dis-toi, c'est pas dans l'époque que le contexte de vie, en fait, parce que si je me regarde moi, en fait, à la maison, c'était énormément radio. Et très peu musique, en fait. Enfin, j'ai des souvenirs de RTL avec mes parents, et quand on bricolait avec mon père, c'était genre Fun Radio, tu vois. Et ce qui fait que j'ai jamais eu cette habitude de chercher à savoir ce que j'entendais, déjà, parce qu'à la radio, c'est assez rare, finalement, qu'ils donnent les titres et les albums des trucs qu'ils diffusent. Et en fait, j'ai jamais eu ce réflexe de me dire « Ah tiens, j'écouterais bien tel truc, en fait, parce que j'ai toujours eu ce réflexe-là de dire, bah, en fait, c'est la radio et peu importe ce qui se passe dessus, c'est ça que j'écoute, quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai ce même réflexe, en fait. Alors, pour le coup, Spotify, c'est très intéressant parce que, bah, j'ai le réflexe de dire, bah, j'allume et je verrai bien ce qui sera diffusé. Mais l'avantage, c'est qu'il me donne des trucs nouveaux, quoi. Alors, c'est pas pour autant que je vais retenir le nom et je regarderai ce que j'écoute, mais au moins, ça me donne des trucs nouveaux dans les oreilles, même si je reste très passif vis-à-vis de cette pratique-là, quoi.
Je voulais juste revenir rapidement sur un truc. Tu as parlé de MySpace, qui est hyper intéressant. C'était une des pistes, moi, que j'avais commencé à creuser. À creuser au début, Internet et la musique. Et j'ai pensé à deux événements et à deux groupes anglais qui, d'une certaine manière, grâce à Internet, ont fait des coups de maître et ont révolutionné un peu la diffusion de la musique sur Internet. Quand tu as parlé de MySpace, moi, j'ai pensé aux Arctic Monkeys qui ont percé grâce à MySpace, qui font partie... Enfin, dans mon esprit, en tout cas, c'est un peu le groupe qui a percé grâce à MySpace. Et je pense à Radiohead qui a vendu In Rainbows, qui est un peu pas le pionnier, mais le groupe qui a eu qui a été le premier gros succès en Pay What You Want en vendant un album. C'était In Rainbows et de mémoire, c'était en 2009. En 2007, pardon, je dis une ânerie. Voilà, j'avais envisagé de partir sur ces pistes-là, mais tu l'as. Voilà, j'ai bien fait de pas le faire parce que tu. A rempli le contrat avec Brio.
C'est vrai que nous en France, c'est Camini et Grégoire, quoi. Donc c'est bon, c'est pas le même niveau, quoi.
C'est vrai. On va laisser aux Anglais le rôle de pionnier en matière de musique populaire. Merci beaucoup Guy pour cette intervention.
De rien.
Et du coup, on va parler musique. On va diffuser pas vraiment un morceau de musique. Comme d'habitude, c'est notre invité, à savoir Victor, qui a fait le choix de la bande sonore qui nous sert de pause musicale. Est-ce que tu veux en parler avant ou après, mon cher ami ?
J'aimerais bien en parler avant pour que les gens se rendent peut-être un peu plus compte.
Très bien.
Du coup, c'est un projet qui a été créé par des développeurs. C'est de récupérer toutes les modifications qui ont été faites sur Wikipédia et de les mixer pour que ça devienne des sons, en fait. Et donc, ça va être, s'il y a une modification de page, une suppression de page, un ajout de page, il va y avoir un son différent. Et selon l'intensité de la modification, l'intensité du son va être aussi différente. Okay. Du coup, ça donne un résultat un peu étrange, mais j'ai trouvé intéressant de vous donner ce son à écouter.
Eh bien, écoute, très bien, on va en diffuser un petit morceau de ce pas. Super. Bah, c'est apaisant en tout cas. Alors, ce qui est assez agréable, donc, en fait, il faut ouvrir la page web pour se rendre compte et voir aussi l'interaction entre l'image et le son. Mais ce qu'on perçoit en fait, ce dont on se rend compte devant la, lorsqu'on voit la page, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur Wikipédia, on a des grosses montées de cordes. En fait, chaque petite action qui advient sur le site a un impact sur l'ambiance musicale en fait qui est générée. C'est hyper marrant. Et en plus de ça, on voit les recherches des uns et des autres ponctuer et décorer la page. C'est hyper joli. Merci beaucoup pour cette découverte. Et, ah oui, il y a un truc que je n'ai pas précisé, que j'ai remarqué aussi. On peut, là, c'était donc ce que vous avez entendu, en fait, c'est l'expression phonique en fait, du Wikipédia anglophone, si je ne m'abuse. Mais exactement. On peut changer la langue. Donc, en fait, j'ai fait le test avant qu'on lance le rec. Enfin, quand tu m'as envoyé le lien hier, Victor, j'ai fait le test avec le wiki francophone. Et bah, bizarrement, c'est beau. La musique est beaucoup plus éparse et je n'ai pas entendu d'inscription sur le site. Mmh. Donc, ça montre vraiment que le Wikipédia francophone semble un petit peu moins fréquenté que l'anglophone. Voilà. Mais merci beaucoup.
Moins actif, en tout cas.
C'est ça, oui. Oui, pardon, qu'on ne se méprenne pas. C'est plutôt une affaire d'activité, absolument. Merci beaucoup, Victor, pour cette découverte apaisante. Et nous allons enchaîner avec la chronique de Crossfell. Crossfell, mon cher ami, c'est à ton tour. On t'écoute.
Cool. Alors donc aujourd'hui, confinement oblige, vous l'aurez deviné, la demande de jeux en ligne grandit énormément. On voit des articles un peu partout sur des listes de jeux qui sont facilement jouables à distance et comment s'en sortir au niveau technique. Moi, j'ai un peu fait le tri et j'ai trouvé trois moyens de jouer à distance aux jeux de société. Donc, il y a le mode un peu clodo de l'espace, webcam, chat vocal.
On l'a testé pour vous.
Voilà, et généralement, une des personnes a le jeu et le filme et les autres vont donner les instructions. L'autre va répercuter les actions sur le jeu, et pour que ça fonctionne, il faut que le jeu soit simple, généralement coopératif. Et donc, pour vous donner une idée, en effet, on a fait une partie de Hanabi avec Tinou, et bon, on va dire que ça n'a pas été super concluant. Ouais, enfin bon, voilà.
On a été mauvais, par contre.
Ouais, on a été très mauvais, mais c'est plus de la bidouille qu'autre chose. Ensuite, la deuxième vraiment grosse partie qui existe, ce sont les applications dédiées. Depuis quelques mois, voire même années, on voit arriver beaucoup d'applications sur des jeux de société, du Seven Wonders, du Carcassonne, au Magic the Gathering il n'y a pas très longtemps, et que ce soit des applications en téléphone pour la plupart, ou même des jeux complets, par exemple sur Steam, il commence à y avoir vraiment un gros choix important. Et j'ai fait une petite recherche de stats sur Steam, évidemment, et en cherchant avec les tags, les mots-clés tabletop et jeux de société, j'ai trouvé 109 résultats. Alors, on retrouve du Uno, du Monopoly, mais on trouve aussi des aventuriers du rail, Terraforming Mars, Mysterium, Gloomhaven, etc. Enfin, il y a vraiment un choix qui est large et conséquent. Et si on jette un coup d'œil rapide aux statistiques, le confinement est clairement une période propice à ce type de jeu. Par exemple, donc pour Terraforming Mars, il est sur Steam depuis février 2018, et il tourne entre 200 et 600 joueurs par jour. Et depuis mars 2020, c'est en pleine montée et on arrive à 1500 joueurs là en fin février-mars. Pareil pour les aventuriers du rail, on passe de 300 à 400 joueurs à 2000 depuis février. Donc il y a bien une grosse demande, enfin grosse relative puisque ça reste 2000 joueurs sur le monde entier, mais n'empêche qu'en termes de proportion, on a bien eu une grosse évolution quand même entre ces jeux. Enfin, c'est l'utilisation de ces jeux sur Steam. Et donc, il y a une troisième manière de jouer à ce jeu de société. C'est-à-dire que pour faire ce genre d'application, il faut soit un service informatique important ou des moyens pour faire développer le jeu spécifiquement pour soi. Par exemple, si Asmodée veut faire éditer un jeu qu'ils ont à eux, soit ils doivent avoir des informaticiens dans leur entreprise, soit il faut qu'ils fassent appel à un prestataire. Dans les deux cas, ça coûte de l'argent. Et donc certains passent par des services tiers qui centralisent les jeux, une sorte de Netflix du jeu de société. Mais dans cette catégorie, on retrouve deux services, enfin deux, il y en a plusieurs, mais c'est un peu les deux gros qui sont Tabletopia et Board Game Arena. Tous deux sont des sites internet à la base. Tabletopia est aussi disponible sur Steam. Alors, je vous épargne les détails, mais en fait, c'est juste la page internet qui est lancée quand on appuie sur Steam. Et les deux proposent une base de jeux disponible, et certains jeux ou modes de jeu ne sont disponibles que via un abonnement. Alors, mode de jeu, c'est-à-dire que des fois, il y a des jeux qui sont dispo à deux joueurs, mais si on veut monter à quatre, il faut l'abonnement. Et ce sont des outils de simulation de jeu. C'est-à-dire que généralement, il y a peu d'automatisation. Et si on veut bouger un pion, on le prend avec le curseur, on le fait glisser, on le déplace. Si on doit piocher une carte, on clique sur le deck, on pioche, etc. Il y a vraiment quelques formes d'automatisation des actions, mais généralement, c'est très léger.
Et donc, pareil. Il n'y a pas vraiment d'IA, excuse-moi, je me permets.
C'est ça, il n'y a pas
d'IA qui contrôle les règles, etc.
Tout à fait. C'est vraiment comme vous le joueriez à la maison. En fait, il y a un paquet de cartes. Si je veux une carte, je clique dessus, je prends une carte. En fait. Enfin, c'est...
D'où ça veut dire que tu peux tricher, par exemple, en fait.
De quoi ?
Ça veut dire que tu peux tricher, par exemple ?
Ah, tout à fait, oui, oui. Il n'y a aucun contrôle, en fait, puisque le principe de ces simulateurs-là, c'est juste tu as le matériel sur une table. Et le reste, c'est une sorte de moteur physique qui va te permettre d'agir sur les éléments du jeu. Mais si tu lances le dé et que c'est écrit 6 et que tu dis 5, il n'y a aucun problème. Très peu des jeux vont prendre en compte que tu t'es trompé ou que tu as essayé de tricher ou que tu as mal fait. Très peu des jeux aussi prennent en compte les règles. Généralement, c'est quand même plus simple de démarrer sur des jeux que tu connais déjà. Parce qu'il n'y a pas de tutoriel ou il n'y a rien. En fait, tu arrives sur une fausse table virtuelle avec le matériel et débrouille-toi. Et donc, pour info, Tabletopia, qui est sur Steam, donc avec des stats à disposition, c'était 60 personnes à peu près par jour pendant depuis 2017, je crois. Et on est passé à 1000-1002 depuis deux mois, en sachant que c'est que la partie qui passe par Steam et pas la partie qui passe directement par le site web. Et donc, s'il y en a un que j'ai un peu mis de côté, sur lequel on a un peu joué avec Étienne, c'est aussi c'est un simulateur, comme son nom va l'indiquer. C'est Tabletop Simulator. Il est disponible pour Steam, donc pour à peu près une vingtaine d'euros. Il est régulièrement en promotion. Et il était utilisé par entre 3 et 5 000 personnes donc avant le confinement. Et depuis le confinement, on arrive à près de 35 à 36 000 personnes qui y sont par jour. Donc là, pour le coup, encore une grosse explosion de la consommation. Alors, c'est aussi un simulateur de jeu. La différence, c'est que le catalogue de Tabletop Simulator est très limité. Mais genre vraiment, en fait, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de jeux, et sorti des échecs d'un jeu de cartes, des dames et de quelques puzzles ou trucs comme ça, il n'y a rien qui soit vraiment dans Tabletop Simulator. Les quelques jeux qui sont payants, on va trouver... donc, en gros, tu achètes le simulateur pour une vingtaine d'euros et pour quelques euros de plus, tu vas pouvoir acheter quelques jeux officiels comme Zombicide, la première saison, comme Wingspan, etc. Il y a quelques jeux comme ça. Et donc, pourquoi il a autant de succès par rapport aux autres alors que le catalogue est très réduit ? Eh bien, parce qu'en fait, accolé à Tabletop Simulator, vous avez le Workshop Steam. Alors, le Workshop, c'est en gros le marché où... pour les jeux vidéo, il y a tous les modes que créent les gens. Et Steam, en fait, Steam considère le jeu comme modable. Et il permet à n'importe qui de développer un mode qui sera intégré dans Tabletop Simulator. Au moment où j'ai préparé cette rubrique, il y avait un peu plus de 32 000 entrées dans le workshop de Tabletop Simulator. C'est-à-dire qu'on peut difficilement en déduire que c'est 132 000 jeux, puisqu'il y a plein d'autres choses. Il y a des pions, il y a des modèles de figurines, il y a des jeux en plusieurs exemplaires, etc. Mais ça me donne quand même une idée du potentiel ludique de la chose, quoi. Même s'il n'y en a que la moitié qui sont des jeux, ça peut être 10-15 000 jeux dispo, quoi. Et si je l'ai mis à l'écart, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, je viens de vous dire que n'importe qui pouvait créer un mode et le diffuser, et en fait, c'est bien le problème. Prenons un domaine dans lequel le modding est considéré comme normal, le jeu vidéo. Un éditeur met à sa disposition un jeu, par exemple Skyrim, et laisse un outil de modding aux joueurs. Certains joueurs vont changer la couleur des armures, d'autres vont améliorer les textures pour rendre le jeu plus joli, on peut même ajouter des quêtes, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on s'y connaît, mais tout cela n'est qu'une modification du jeu de base, et en plus, elle est autorisée par l'éditeur du jeu, puisqu'il met à la disposition les outils pour rendre le mode. Pour aller encore plus loin, on a déjà parlé de Dota dans un épisode sur l'IA, Dota, c'était un mode du jeu de Warcraft. C'est devenu un jeu indépendant, mais à la base, c'était un mode. Mais dans les deux cas, l'éditeur savait ce qu'il faisait. Il faut le jeu et on le modifie et il est d'accord puisqu'il nous donne les outils pour le faire. Avec Tabletop Simulator, on ne modifie pas Tabletop. On intègre quelque chose qui n'existe pas dedans. C'est-à-dire que dans ton monde Tabletop, j'ai un jeu d'échecs, mais si je veux y mettre, je ne sais pas moi, Anabi, comme on parlait tout à l'heure, je dois créer des cartes, je dois les scanner, je dois intégrer le visuel des cartes dedans et je dois créer les pions, etc., etc. On intègre quelque chose qui n'est pas dedans. Et ça pose un problème au niveau législatif pour les droits qui concernent le jeu. Puisque l'éditeur, l'auteur, l'illustrateur, etc. n'ont jamais donné leur accord pour qu'un portage de leur jeu soit effectué sur la plateforme. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Des fois, ils l'autorisent, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Donc, on pourrait donner tous les arguments qu'on veut, c'est illégal. Il n'y a aucun problème avec ça. La loi est stricte là-dessus, c'est juste illégal. Je mettrai dans la description du podcast quelques liens, dont un article sur TrickTrack, qui est le plus gros site francophone de jeux de société. Donc il y a un article et un lien Facebook sur un post. Donc les deux sont d'un certain Eric Anuiz, qui est un auteur de jeux. Alors je pense que je vous ai pas donné les noms parce que c'est pas des jeux très connus, mais il est quand même auteur. Et c'était suite a priori à une discussion qu'il a eue avec Benoît Bagnier, qui fait partie de la maison d'édition La Boîte de Jeux, qu'on connaît bien parce qu'ils font des très bons jeux. Et donc ils discutent un peu de ça. Alors je vais vous prendre quelques arguments qui dit là sur Facebook, mais voilà. Son point, en tant qu'éditeur, nous devons protéger les droits des jeux que nous éditons. Ça c'est logique, c'est difficile d'en faire une copie. Les contrats passés avec les auteurs de ces jeux, les illustrateurs ne permettent pas forcément la diffusion de copies numériques. Ça c'est aussi en fonction des contrats. Les copies ne sont pas rémunérées à l'éditeur, etc. Mais bon, ça, à la limite, ça peut être le cas. Mais par contre, la plateforme Tabletop Simulator, elle est payante. C'est-à-dire que en tant que joueur, je paye mes 20 euros à Tabletop Simulator, eux ne reversent rien, et quel que soit le nombre de parties que je fais, de quel que soit le jeu que je fais, l'auteur ne touchera rien. En fait, ça, c'est potentiellement un problème d'exploitation. Et ces copies étant réalisées par des tiers, il y a aussi un petit problème entre savoir est-ce que c'est le modeur qui est en faute, est-ce que c'est Tabletop Simulator qui héberge le truc, mais en fait c'est Steam qui héberge le jeu, bref c'est un peu compliqué. Et pour moi il faut bien se rendre de certaines choses, c'est que si le marché du jeu de société est en pleine expansion, il reste assez jeune. Et comme rien n'a été mis en place, il est exposé à ces problèmes que ses grands frères culturels, le livre, le cinéma, la musique, ont déjà réglé. Alors je mets réglé entre guillemets, oui. Avec l'exemple des brevets, etc. Donc on est bien d'accord que les 35 000 personnes sur l'ensemble du monde, c'est rien en fait, enfin, c'est un pourcentage ridicule, même si ça montait à 50 000 personnes, 50 000 joueurs en 20 ans. En même temps, ça, le problème ne serait même pas en fait financier, puisque les maisons d'édition toucheraient rien en fait, enfin, c'est pas le grand problème. Et ça n'aura jamais un impact assez fort pour faire réagir qui que ce soit. Si le livre a réussi à avoir sa loi langue, c'est parce que le marché est beaucoup plus énorme que celui du jeu de société. Ensuite, ce problème de piratage, car c'est vraiment de ça qu'il s'agit, arrive juste 15 ans après celui des films et de la musique. Ce sont des marchés beaucoup plus juteux, avec une force de frappe financière et politique beaucoup plus grande. Et pourtant, ils n'ont rien pu faire. Aujourd'hui, on se retrouve avec Netflix, Amazon Prime, Disney+, Spotify, Deezer. Et ça a été la solution qu'ont amené ces marchés-là pour régler le problème de piratage. On peut se dire que Tabletopia est un Netflix du JDS, du jeu de société, donc Tabletopia c'est celui qui est en légal. Mmh. Et le problème premier, c'est la demande. Le catalogue, il est vraiment très réduit. Pour le coup, là où je vous ai dit peut-être 10-15 000 jeux sur Tabletop Simulator, Tabletopia on est peut-être sur quelques dizaines, voire même centaines maximum. Et un des problèmes en fait qui résonne dans la tête des gens, c'est que quand un film sort en DVD ou sur Netflix, ou une musique, il reste sur un format, sur un type de fichier, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'achète mon DVD à la Fnac ou chez mon disquet ou n'importe quoi, sur le support, j'ai un fichier qui sera un point MP3 si c'est un CD ou n'importe quoi. Et quand je vais télécharger sur, comme disait Guy, Emule ou n'importe quoi, j'aurai aussi un MP3. Donc il y a vraiment le côté où c'est la même chose que je récupère. Et paradoxalement, le piratage en est que plus facilité. On a le même produit à l'arrivée, qu'il soit payant ou téléchargé illégalement. Et c'est plus simple, en fait, d'arriver à avoir quelque chose. Et qu'on le regarde illégalement ou pas, c'est la même chose. Le producteur et le distributeur n'a pas le choix, en fait. Son film ou sa musique est de toute façon numérisé, en fait. Il n'a pas de regard, en fait, dessus. Alors que l'avantage, entre guillemets, qu'ont les marchés de la BD ou du manga et du jeu de société, qui sont moins impactés par le téléchargement, c'est parce que le support change la manière dont ils vont être consommés. C'est-à-dire que si je lis une BD, si je veux trouver un scan de bonne qualité, ça sera moins facile que juste de trouver un DivX de mon film qui sera potentiellement de la même qualité. Et c'est pareil avec le jeu de société. C'est quelque chose qui, à la base, est physique, et là, on veut le passer à quelque chose de numérique. Donc, il y a vraiment un problème, en fait, où si l'éditeur ne fait pas l'effort d'amener une solution à lui, quelqu'un va pouvoir le faire. C'est la scalabilisation. Vas-y.
C'est super intéressant, Cross. J'avais pas du tout imaginé le problème sous cet angle-là, et je le trouve super intéressant. Merci. Et je me dis du coup que en fait, c'est vrai que c'est un transfert de support, mais le jeu, ça va pas arriver parce qu'on n'y arrive pas encore. Mais le jour où tout le monde aura chez soi, entre guillemets, une imprimante 3D qui coûtera que dalle et de la matière, le problème de copie se posera certainement plus à ce moment-là.
C'est ça. Alors, je vais pas vous parler de tout, mais je vous mettrai quelques liens. Donc, les deux liens, donc là, vers TrickTrack et vers le post de Facebook. Et je suis pas mal le forum Crowd, qui est à la base plutôt pensé pour les campagnes de crowdfunding de jeux de société. Et pour l'occasion, ils ont ouvert un topic, en fait, sur ces sujets-là. Et qui est vraiment très intéressant parce que ça, en fait, même si tout le monde est d'accord du côté légal de la chose, le problème n'est pas là, en fait. Il y a beaucoup, en fait, c'est vraiment divisé en une partie de la population qui dit, bon, bah, si l'éditeur veut pas que son jeu soit en ligne, bah, il l'est pas, et toute forme de personnes qui lui vont le mettre en ligne, bah, c'est pas bien, il faut pas le faire, et c'est tout, quoi. Et il y a l'autre partie de la population qui dit, bah ouais, mais en fait, si moi je veux y jouer, c'est qu'il y a une demande, il y a un marché. Bah, soit l'éditeur est intelligent, il le met en ligne, soit il est con, et dans ce cas-là, bah, tant pis, il ferme sa gueule, c'est quelqu'un qui va faire un mode sur Tabletop Simulator, quoi. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il y a, enfin, la vraie bonne solution aujourd'hui, c'est de dire, bah, en fait, c'est illégal, on le fait pas, mais c'est plus un souci de choix éthique, voire même politique et économique, plus que quelque chose de légal. Parce qu'en fait, ils ont eu le problème avec le film, la musique, etc. C'est quelle que soit la solution, la répression qu'ils mettent en place, ils seront jamais assez gros pour lutter. Enfin, je veux dire, Adopi, aujourd'hui, on en rigole et ça a disparu. Enfin, ce genre de choses-là fait que, de toute façon, s'ils disent, bah, demain, en l'occurrence, la boîte de jeu, s'ils disent « It's a wonderful world », bah, tu me retires ton mode, bah, en fait, demain, il y en aura trois autres. Et s'ils arrivent à interdire Tabletop Simulator, bah, en fait, il y aura d'autres plateformes qui le mettront en place. Donc, c'est vraiment ce choix-là de dire, bah, « Ok, vous faites pas l'effort d'avoir un jeu en ligne, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on se contente de dire bah ok, vous voulez pas, donc il n'y en a pas ? Ou est-ce que bah tant pis, on utilise quelque chose ? Et en plus, on va pas se mentir, c'est quand même assez rudimentaire. Alors, si le marché se développait, les outils seraient sûrement mieux, mais pour le coup, aujourd'hui, les Tabletop Simulator et compagnie, c'est assez léger. Enfin, c'est pas très agréable d'y jouer, quoi. Enfin,
c'est spartiate, ouais, c'est clair.
C'est ça. Là, les 35 000 personnes, à mon avis, une fois que le monde entier est déconfiné, d'ici 6 mois, peut-être aller un an même, les retombées, on va retourner à peu de choses près aux chiffres qu'il y avait avant, en fait. Ouais. Et de toute façon, c'est des chiffres qui restent ridicules au vu du marché. Et c'est assez intéressant parce que, justement, le mec de la boîte de jeu, parle souvent de chiffres sur Grodd, donc sur ses campagnes, etc. Et là, il expliquait que c'est pas financièrement, en fait, que ça leur pose un problème. Enfin, en tout cas, lui, de son côté, j'imagine qu'il y en a d'autres que ça doit peut-être gêner, mais lui part du principe que c'est pas financièrement que ça le gêne. C'est que lui n'a pas donné son autorisation et il fait ce qu'il veut avec son jeu, ce qui est la loi. Et surtout, il prend le parallèle en disant, mais en fait, un des arguments des gens, comme tout téléchargement, c'est de dire ça fait de la pub, il y a sûrement des gens qui vont l'acheter, etc. Et lui répond en disant, bah oui, mais moi j'ai la chance de mes jeux n'ont pas besoin de ça pour se vendre. En effet, il fait des campagnes Kickstarter à succès, ses jeux se vendent bien en boutique, il a pas besoin de ça. Et il inverse la situation en disant, mais par contre, si mon jeu n'est pas sur Tabletop Simulator, ils ne vendront jamais Tabletop Simulator. Alors, le sien en particulier, mais en fait tous, si tous les éditeurs disaient bah, demain en fait on vide le workshop de Steam, bah, en fait Tabletop Simulator, on revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire deux jeux de cartes, ouais, un jeu d'échecs et des puzzles, et plus personne ne l'achètera. Ce qui fait qu'il y a bien un deal qui est pas propre du côté de Tabletop Simulator, puisqu'ils sont bien conscients de cette situation-là, quoi. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces côtés-là, un peu piratage, etc. Mais ouais, tout ça pour dire que de toute façon, ça passera par les mêmes étapes qu'ont eu l'industrie musique, du cinéma, la musique, etc. Puisque de toute façon, ces problèmes-là n'arrivent que 10 ou 20 ans plus tard que eux, et les solutions seront les mêmes, en espérant juste que ça passera peut-être pas par toute la période qu'on a eue de répression inutile, finalement, puisque ça a vraiment été inutile. Ça a été une perte de temps et de budget pour tout le monde. Oui, bah c'est ça, mais Adopi, et puis tout, en fait. Enfin,
oui, non, mais
c'est passé entre temps, en fait.
Je donne un exemple. Oui, non, mais,
oui, mais tout à fait, c'est vraiment ça, quoi. Et puis surtout que, en vrai, ils arriveront jamais à faire en sorte que ce système-là d'Adopi ou quoi que ce soit ne prenne en compte le jeu de société, en fait, parce que c'est beaucoup trop compliqué en fait au niveau du support et tout. Enfin, déjà qu'ils essaient de lutter pour rendre le jeu société un produit culturel et d'arriver dans des législations proches de la loi langue, etc. À mon avis, le téléchargement et le piratage d'un jeu physique en une version virtuelle, bof, et utilisé par Deep Le Bleu, je pense que le gouvernement n'a un peu rien à faire. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Oui, tu voulais dire quelque chose, Guy?
Ouais, je rajouterais bien deux petits trucs. Vas-y. À la chronique de Cross. Vas-y. Qui était vraiment super intéressante. Deux trucs qui sont... Alors, le premier, c'est justement, actuellement, avec le confinement, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont aussi tournés vers le print and play pour avoir, entre guillemets, vous imprimez, vous découpez et vous jouez chez vous avec le jeu de société. Ce qui est marrant, parce qu'en donnant du print and play, tu peux également alimenter, du coup, des modes de tabletop ou autre, tu vois. J'y pensais, tu vois.
Tout à fait.
Tu fournis tes plans, tu fournis tes cartes, bah le mec qui a un peu de temps, il va le modder plus facilement que tout recréer. Tu vois, je pense à Anabi, s'ils l'ont mis en... Non, il y a par exemple King Domino là, qui a mis une extension qui a été créée en 10 jours exprès là pour le confinement. Ils ont mis tout le matos à dispo. Il faut le jeu de base, certes, mais tu vois, c'est facile à modder grâce aux templates qui ont été fournis. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que cette période-là permet ça aussi et montre le côté très problématique de transférer un support physique en support dématérialisé, entre guillemets. Et l'autre petit point que je voulais ajouter à ta chronique, c'est aussi, alors il me semble pas que tu en aies parlé ou je me suis endormi dedans et j'en suis navré, mais de la possibilité de jouer via Alexa.
Via non, j'en parle pas parce qu'en fait c'est assez marginal. Enfin, tu vois,
ouais, je sais pas si Tito, si t'en as entendu parler, mais
j'avais entendu parler et je me demandais comment ça fonctionnait en fait, parce que
en gros, coup, Alexa, par exemple, on va prendre l'exemple le plus facile sur lequel ça marche a priori, c'est Ticket to Ride, comment ça en français,
les aventuriers du rail.
Aventuriers du rail.
Ouais. merci Faudel, merci les gars. En gros, les aventuriers du rail peut être joué grâce à Alexa qui joue une personne. En fait, tu le poses sur ta table, donc ta commande vocale Alexa qui est la commande vocale, je ne sais plus laquelle.
D'Amazon.
Et elle te simule un autre joueur, en fait. Elle te permet de jouer avec un joueur virtuel qui est Alexa, en fait.
Ça, tu as une sorte d'IA. Ils ont développé aussi une mode de jeu de rôle où tu as une... Enfin, l'Alexa remplace, entre guillemets, le maître du jeu. Bon, c'est okay. Pareil, ça reste assez sommaire. Et pour le coup, bah, en parlant de ça, Il y a une campagne qui s'est faite il y a pas très longtemps là cette année ou fin d'année dernière. C'est un studio français qui fait ça. C'est un mix entre un jeu de société dungeon crawler où tu avances case par case et de jeu de rôle où le rôle du MJ est divisé entre une IA et un joueur. Alors c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu pousser le concept un peu plus loin. Mais en gros, bah, t'as quelques interactions où tu peux poser des questions à l'IA, elle va donner au MJ quel type de monstre, quel type de pièce il va y avoir derrière la porte cachée, etc.
D'accord,
ça pourrait être poussé plus loin, mais en effet, ce genre de choses-là, avec des IA ou des choses un peu plus comme ça, comme tu dis, Guy, avec Alexa, etc., on peut aussi jouer. mais pour le coup, enfin, c'est quelque chose qui viendra, hein, fatalement. Hein, mais aujourd'hui, c'est encore très très marginal, quoi. Enfin, encore plus que le reste.
Oui, oui, ça reste très rudimentaire, et c'est pour ça que je voulais aussi le mentionner, parce que ça revient à ta chronique. Qu'est-ce qu'on va lutter, même en mettant à disposition du print and play, même en mettant à disposition des commandes vocales. En tant que, enfin, moi, je suis rentré maintenant dans ce domaine-là. En vrai,
et puis voilà, c'est compliqué de lutter contre des copies de ce genre de choses-là, parce que typiquement, on joue beaucoup à The Game. Okay, mm. C'est des cartes qui vont de 1 à 100. Ouais. Bah, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de jouer à The Mine avec ton jeu de The Game, en fait? Tu vois, c'est plus ou moins du piratage, en fait, de The Mine, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser les figurines d'un jeu pour jouer dans un autre, les pions d'un truc? Enfin, tous ces trucs-là sont compliqués à régler. Et je trouvais que la discussion était intéressante parce qu'en fait, il y a un peu le paradoxe de dire, les gens sont en confinement, il faut bien qu'ils s'occupent. Donc, c'est un peu dégueulasse de taper sur l'ambulance. Mais en même temps, il n'y a jamais autant de personnes qui ont été touchées par le sujet, et donc c'est intéressant d'en parler maintenant, en fait.
Exactement, ça met en exergue
le jour où c'est jamais utilisé, en fait, c'est dommage, personne ne verra même de quoi ça parle. Et pour le coup, c'est assez marrant parce que j'ai découvert la loi de Streisand en parlant de ça, parce que justement, il y a plein de gens qui ont dit, en fait, c'est con parce que ton article sur Tabletop Simulator va juste leur faire de la pub.
Oui, grave, c'est marrant. Les grands esprits se rencontrent.
La boucle est bouclée, quoi.
Super. Je pense que c'est bon pour toi, du coup, mon cher ami.
C'est bon pour moi.
Parfait. Merci beaucoup. Eh bien, super. Wow, c'est passé hyper vite. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais moi, je trouve que les choses ont filé hyper vite, cet enregistrement de l'épisode du confinement. Merci, Guy. Merci, Crossfell. Et merci à notre cher ami Victor pour ce thème hyper enthousiasmant, même si au début, quand on a brainstormé, on est parti vraiment tous dans tous les sens. On avait plein d'idées, plein d'envies. Ça a été, je sais que pour Guy, ça a été compliqué d'écrire aussi.
Très compliqué. Un petit bisou en direct de la ZAD, hein, où je suis actuellement. Et donc, zone abritante et tout. Zone très abritante. Oui, c'est ça.
Tu t'embrasseras tout le monde à la ZAD de notre part.
Je suis en 4G, donc voilà.
Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis depuis votre confinement, car on sera toujours confinés au moment de la diffusion de l'épisode. J'espère que les choses se tasseront. Dans tous les cas, que ça se poursuive ou pas, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Moi, je vous embrasse très fort, les garçons.
On s'embrasse à distance.
Avec évidemment les gestes barrières de rigueur. Bisous, bisous, chers auditeurs. À très bientôt.
Bisous, bisous.
Bisous. Ciao.